sur la trace des champions. Rugby Club Toulonnais 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable. Un podcast de la rédaction des sports de Varmatin.
Je vous invite à écouter l'ovation qui salue l'entrée dans le stade des deux capitaines.
Nous sommes le 6 juin 1992. Sur la pelouse du Parc des Princes, le RCT affronte le Biarritz Olympique en finale du championnat de France de rugby. Serge Blanco dispute le dernier match de son immense carrière. Après une saison difficile, le club toulonnais a frisé la relégation. Les Rouges et Noirs se serrent, encaissent, avancent. Ils sont héroïques, ils deviendront légendaires.
Oh, une très grosse domination toulonnaise qui va se concrétiser par un essai.
Oh, c'est bien,
c'est joli.
30 ans après, nous les avons retrouvés, eux qui ont déjoué les pronostics et renversé le cours de leur histoire, eux que personne n'attendait.
Oh, c'est bien vu le diable, et ça passe.
Il y a le petit Mozart qui inscrit des drops décisifs, l'Indien chevelu, le lien entre les générations. Il y a l'émotion du barbare de la rade et de tous les durs à cuire qui n'étaient pas forcément sur la pelouse. En 10 épisodes, Varmatin vous fait revivre l'épopée du sacre toulonnais. 30 ans plus tard, la joie est toujours là. Nous avons rencontré Éric Champ, le troisième ligne privé de finale pour un carton rouge. Éric Champ, le premier capitaine à soulever le bouclier de Brennus en costard.
Bon Eric, on est à Toulon, là,
sur
ton balcon, on aperçoit presque Mayol. Tu avais besoin de le voir tous les jours encore, ce stade ?
Oui, c'est quand mon épouse a choisi cet appartement, je lui ai mis quelques impératifs, dont celui de voir effectivement le stade Mayol. Non, je plaisante. Oui, on est plutôt bien placé, on voit le stade Mayol, c'est sympa. Mais on ne voit pas que le stade Mayol, parce que ce qui est formidable à Toulon, c'est que le stade Mayol, c'est Toulon. C'est le centre de Toulon. C'est l'Arsenal pas loin, c'est bien sûr le Cours Lafayette, c'est le centre, c'est le cœur de Toulon.
Si on est avec toi aujourd'hui, Eric, c'est parce qu'on est en 2022. Il y a 30 ans, il s'est passé quelque chose quand même du côté de Toulon.
Ouais.
Alors, si je te dis 1992, à quoi tu penses en premier ?
À la naissance de ma fille Eva. C'est bizarre, il y a des années comme ça. Je pense à Eric Melvilla.
Ouais.
Ouais.
Qui nous a quittés malheureusement.
Ouais. Je pense réellement à lui et ça me file le fait que tu me poses cette question et la réponse que je te fais, c'est j'ai du mal depuis qu'on parle de ça, parce que tu m'as sollicité, tu vas en solliciter certains d'entre nous. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi il y a un mouvement derrière ce titre, parce que peut-être qu'il n'était pas attendu, parce que peut-être il est né dans la difficulté, mais et j'y pense souvent, et tu vois, ce matin, je suis allé faire encore un peu de vélo, je suis passé pas loin de chez lui, et j'ai du mal à me lever de l'idée que 92, c'est lui. C'est lui parce que je l'ai dit chez des confrères à vous, on l'a écrit et je suis foncièrement persuadé. On pourrait passer pour des héros, les vrais héros, c'est ceux qui sont partis, qui nous ont quittés. Et lui, il nous a quittés bien trop tôt, de façon dramatique, quoi. Donc je pense à lui, je pense à sa famille et il va falloir fêter ça, mais il faut fêter sa mémoire, il faut inviter aussi sa famille.
C'est aussi révélateur de cette époque où vous étiez plus qu'une équipe, finalement. Vous étiez une famille. C'est aussi ça, le sentiment que tu as ?
Réellement, ouais. C'est pas un sentiment, c'est une façon de vivre, c'est une aspiration, c'était ce qu'on recherchait. C'était pas, on parle plus de la même chose. Je suis pas en train de dire que c'est mieux maintenant ou c'était mieux avant, c'était totalement différent. Et c'est vrai que les équipes, les grandes équipes, les groupes se construisaient bien sûr sur le talent, se construisaient quand ils gagnaient, mais aussi se construisaient sur le fait d'être une famille. Mais c'est pas propre qu'à Toulon, c'est propre au rugby. C'est propre au rugby, voilà. Donc, et je suis vraiment très très content. Très très content et heureux d'avoir traversé toutes ces années, bien sûr dans ce club, avec les réussites, les échecs qu'on a eus, mais aussi avec les amitiés qu'on s'est construites.
Dans cette famille, du coup, toi, t'étais le capitaine. T'étais le grand frère, un peu, dans ce groupe, en 92 surtout.
Ouais, Ouais, Kante, j'ai su que tu venais. J'ai dit, qu'est-ce que je peux dire à ces minots ? Je suis même pas sûr qu'ils étaient nés à l'époque. Je peux pas vous expliquer la finale parce que je l'ai pas joué, et tant mieux, parce que peut-être je l'aurais joué, on l'aurait perdu. Ceux qui ont joué à ma place, ils ont été bien meilleurs que moi. J'ai dit, tiens, réellement, ça a été quoi ta valeur ajoutée de ça ? Pas sur le match, mais sur la saison. C'était une saison compliquée, puisqu'il ne faut pas oublier, on a eu un match très très dur. Le match, moi, le plus dur que j'ai eu de ma carrière, c'est le match des 16e de finale à Montpellier contre Aurillac, club de Pierre Trémouille, le vrai capitaine du titre, où tu sais, rentrer avec le ballon et tu te dis, tu rentres avec le ballon, tu es capitaine de cette équipe, et dans 80 minutes, tu peux l'emmener en deuxième division. C'était un match difficile. Voilà, alors après, on va pouvoir parler des autres matchs, mais. Oui, le sentiment que j'ai, c'est qu'à quelques-uns, à un moment donné, quand c'était très très difficile, on ne s'est pas dispersé, on ne s'est pas énervé, on était persuadé du grand talent de ces jeunes. Du grand talent de ces jeunes, on peut tous les dire, mais je vais en oublier, mais vous le ferez mieux que moi. Et quand j'ai dit on était, c'était André, le président, c'était Jean-Claude, l'entraîneur, c'était moi-même, et voilà. Et c'est vrai que je me souviens, dans la difficulté de ces invitations que je lançais, moi, dans les collines, à l'époque, j'habitais à Cuers, des amis à moi avaient un très beau vieux moulin. Et donc voilà, quand il n'y avait pas de match, on partait là-bas, on s'entraînait dans les collines, il y avait toujours après un pique-nique, un déjeuner. Et je crois que là, on a vraiment mis le ciment de ce qui allait se passer, de ce qu'on allait construire dans les quelques mois qui allaient venir.
Parce qu'il y avait deux générations différentes dans ce groupe, et toi, tu devais faire le lien finalement, par ton rôle aussi.
Ouais, c'est ce qui était bien, mais j'étais pas tout seul. Hein. J'étais pas tout seul, il y avait Yann, hein. Yann Branlin. N'oublions pas que Yann, c'est le seul d'entre nous qui a fait les quatre finales et les deux titres. Il y avait bien sûr Eric, il y avait des garçons comme Yvan Roux, il y avait plein de joueurs qui effectivement étaient... qui avait participé à cette grande et belle aventure qui nous avait fait faire le titre en 87. Mais c'était aussi la mission du rugby. C'était de dire à un moment donné, il y en a quelques-uns qui commencent à voir les tempes blanchies. Moi, ça s'est accéléré. et qui doivent... Voilà, quoi, il y a du talent et qui doivent faire passer un certain nombre de choses. Alors, c'était pas facile. Pas pour moi, mais pour eux, parce que des fois sur le terrain ils se faisaient engueuler. Mais ça tu vas en interviewer quelques-uns.
Ils se faisaient gronder, quoi.
Ouais, je leur disais, mais Patrice, si tu continues à pas dire le mot, mais à faire ça, tu vas redescendre chez les juniors et de suite, quoi, tu vois. Bien sûr, Ryan Delegue aussi, tu vois. Bon, donc, mais c'était formidable parce qu'on était tous persuadés que ça pouvait le faire. Hein. Ça serait prétentieux de dire qu'on était persuadé qu'on allait être champion de France. Mais on était persuadé que ça pouvait le faire. Et puis, moi, je crois beaucoup aux jeunes. Ces jeunes, ils avaient grandi, ils avaient été aussi nourris, ils avaient tout compris durant cette période aussi, 84-91, tu vois. Donc,
c'était un héritage, ils avaient cet héritage en eux.
Ouais, et puis alors, l'héritage, ce qui est beau, c'est qu'ils l'ont pas croqué, hein. Ils l'ont accéléré, hein. Ça c'est une belle remarque. J'avais jamais pensé, mais ouais, c'est un bel héritage, et l'héritage, ils l'ont pas bouffé, ils l'ont fait prospérer.
Tu disais, tu manques la finale. Alors pour ceux qui le savent pas, tu es suspendu, ouais, en challenge avec une, ouais, altercation, on va dire, avec, ouais, Abdelatif Benazi.
Ouais, ouais, tout à fait. Ben, des fois dans la vie, on est con. À la fois moi et lui, on a été très con. Lui a été puni de tournée, moi j'ai été puni de finale.
Tu le réalises tout de suite ou pas, que tu vas manquer la suite?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, parce qu'on est Toulon. Et qu'on sait que la Fédé et Toulon, ils ne nous feront pas de cadeaux.
Déjà à l'époque?
encore plus que maintenant.
Le président n'était pas trop exponé, on va dire.
Encore plus que maintenant. C'est, on le savait. De toute façon, on le savait depuis toujours, mais là aussi, tu sais, cette fameuse histoire de dire qu'ils ne nous aiment pas, ce en quoi, c'est pas faux. Mais... c'était aussi un élément motivateur extraordinaire.
On se construit dans ça.
Ouais, ouais, on en veut à l'inter entière. Voilà. Bon, après, tu t'aperçois que quand tu joues avec eux, c'est pas mal non plus.
Et du coup, voilà, les tours passent. Donc, ouais. Comment tu trouves ta place et ton rôle dans ce groupe, du coup, en étant plus sur le terrain?
Il faut être très très vigilant. D'abord, j'ai un grand souvenir parce qu'il y a ce fameux match. Alors, il y a bien sûr cette finale qui est un match abouti complètement avec l'essai magnifique de Pompon qui s'embranche. Je ne suis pas certain qu'il fasse exprès de le marquer, l'essai. Mais il court, il ne voit même pas la ligne, tu sais comment il est, Pompon. Hein, il s'embranche, il marque l'essai, c'est formidable. Non, mais quand même, on est à la barbe de Serge, mon ami Serge Blanco. Il fallait quand même le faire, ce petit de la Valette. Il y a un très très beau match. Il y a un très très beau match qui est juste après ce fameux match de Aurillac, oui. Qui est, je crois, Avignon contre Nîmes, où Nîmes sort premier club des poules. On va dire, nous, on a gagné Aurillac par miracle. Je crois que pendant 80 minutes, on n'a pas fait une passe. On a confisqué le ballon devant et on a dû faire un match de bourrin parmi les bourrins, c'est-à-dire qu'on a fait que des molles pénétrants, on a dû marquer, je sais pas, un ou deux essais par miracle. Mais ce qu'il faut savoir, il faudra que tu le regardes, je crois que chaque fois qu'on a rencontré Aurillac en phase finale, on est allé en finale où on a été champion. C'est des vieux souvenirs. Hein,
mais c'est dommage qu'il soit en Pro D2 maintenant.
Ouais, c'est con quoi, parce qu'autrement, on dirait de venir jouer tous les dimanches. Mais on fait un match énorme, énormissime à Avignon contre Nîmes.
Au Parc des Sports,
Avignon. Ouais, on les colle au mur. Et alors, je me souviens de mano mano avec Eric Melville. On a fait un match. Putain, à la fin du match, on s'est assis à côté et on a dit, putain... alors lui, avec son accent hein, de Toulonnais sud-africain, c'est-à-dire d'accent hein, mélangé entre l'Afrique du Sud et celui de Toulon qu'il avait pris... On avait fait un match mais terrible, on avait gagné. Je crois qu'il y a même un essai de Pierrot ou de Pascal Gel qui traverse à un moment donné tout le terrain. Pascal Gel, il avait dû mettre la montre à l'heure. Hein, parce qu'il ne mettait pas toujours la montre à l'heure. donc voilà. Et puis après il faut avoir cette capacité à dire tu y es plus, je ne vais pas expliquer la musique et à prendre suffisamment de recul pour laisser ceux qui se le gagnent tous les dimanches à la fois profiter, assumer leurs responsabilités et montrer qu'ils ont le grand talent pour être champion de France. Donc voilà, mais bon, on avait un entraîneur, on n'en parle pas souvent, mais Jean-Claude Balator, qui a été le garant de beaucoup de choses. Et donc voilà, donc moi j'étais à côté parce que voilà, tu sais, après quand tu es en phase finale, tu n'as pas besoin de te filer des coups de tête dans les murs pour te motiver, hein, je veux dire, mais voilà, donc peut-être qu'ils étaient, je ne sais rien, ils te le diront un peu même, rassurés que je ne sois pas très loin, mais tu sais, être pas très loin dans les tribunes, ça ne sert pas. Après, c'est à eux sur le terrain.
Il se dit aussi que cette finale, certains, voire tous, l'ont joué aussi pour toi, quelque part, en disant « Eric est dans les tribunes, on doit aller la chercher pour lui ». Tu l'estimes comment 30 ans après
Je l'estime que, putain, j'ai une grosse émotion quand tu me dis ça, parce que comme on a tous beaucoup de relations encore ensemble, je pense qu'ils le disent pas pour me faire un plaisir ou pour inventer un truc. Je pense que réellement, d'abord, ils l'ont fait pour eux, parce que quand tu joues une finale, tu le fais d'abord, enfin, pour ton club, pour toi. Et c'est vrai qu'il y a sûrement eu, à un moment donné, des discours, des pensées qui devaient de leur part qui devaient venir vers moi. Mais bon, oui, puis je l'ai vu à la fin, quand ils ont refusé d'aller chercher le bouclier et qu'ils ont souhaité que ce soit moi qui allais le chercher. C'était un vrai beau pied de nez à la fédération. Ils disent, qu'est-ce que c'est ce gaga, quoi? Il est en costume et les mecs veulent pas prendre le bouclier, c'est lui qui va prendre le bouclier. Bon, voilà. Donc, le rugby, quand ça gagne, ça crée beaucoup d'amour entre les hommes. Ça crée beaucoup d'amour et il ne faut pas avoir peur ni honte de dire que les gens qui gagnent s'aiment.
Tu le disais, tu as été le premier, voire l'unique capitaine en costume. Soulever le broquillier en costume. Quoi.
Ouais, j'avais une cravate quand même, rouge et noir.
Comment tu vis ce match? Est-ce que c'est plus dur finalement dans les tribunes? D'être impuissant finalement.
Impuissant... Il y avait tellement de talents en troisième ligne. Léon Lopi, Eric Melville, Thierry Louvet. Ça a été eux. Ça aurait peut-être pu être moi à une place. Tu vois, j'avais pas de soucis par rapport à ça. Et puis réellement, réellement, quand j'ai vu ces premières mêlées, ces premières attaques, la force de la jeunesse qu'on avait, c'était le talent, l'insouciance et pas de complexe. Quand j'ai vu ces premières mêlées où Yann, Michel Perrier, de Rougemont, si tu veux, emportaient des Pascal Ondars, qui sont des monuments. Moi, j'ai joué 10 ans derrière Pascal Ondars. Il ne s'est jamais fait emporter par personne. Et tu te dis, putain. Et quand tu vois que tu sors les ballons, Aubin, tout ça, ça accélère derrière. Et que là, il n'y a pas de complexe que ça joue. Franchement, plus on rentrait dans le match, plus je me disais, ils vont le faire.
T'étais serein.
Tu n'es jamais serein
sur le
terrain.
Plus que sur le terrain.
Oui, parce que sur le terrain, c'est plus facile dans les tribunes que sur le terrain. Mais voilà, après, quand j'ai senti vraiment que c'était fait, j'ai rejoint Jean-Claude et j'espère que tu le parleras avec lui. Mais je crois que même Jean-Claude, non pas qu'il n'y croyait pas, mais il se demandait ce qui se passait. Moi, c'est le sentiment que j'ai quand je me souviens très bien, hein, je descends et je m'assieds à sa gauche, là, il est là. On ne se regarde pas, on ne se parle pas, parce que lui, il est quand même très concentré encore sur le match. Moi, comme je suis un peu hors du match, je commence à sentir, tu vois, certaines choses. Lui est quand même très concentré, mais il y a quelques regards. Et je pense, on ne s'est pas parlé, mais on lui demandera maintenant. Je pense qu'il se dit, putain, c'est pas possible, on va le faire.
Tu descends à la mi-temps ou tu restes en tribune?
Franchement, je ne me souviens pas.
Tu ne te souviens pas?
Non. Non, je ne descends pas parce que je crois pas que je descende, parce que nous, il n'y avait pas de... On ne retournait pas au vestiaire.
Ah oui, tu restes sur Toulouse.
Eh ouais, tout à fait. Donc déjà qu'il s'est suspendu, moi. Il ne devait pas être content que je sois dans le stade. Si en plus je vais sur le... Là, on le fait encore à la Toulonnaise, quoi. Ça devient...
Ce match, c'est aussi le dernier match d'un homme dont tu étais proche. C'était Serge Blanco. Enfin, vous côtoyez en équipe de France.
Ouais.
Voilà, Toulon enterre la carrière de Serge Blanco, quand même. Alors, rétrospectivement, comment tu le...
Ouais.
Avec des minots, quoi.
Ouais, t'as fait. Alors, ne parle pas au passé, parce que je suis toujours très proche de Serge Blanco. Il a fait tellement pour le rugby, et il a fait tellement, moi, pour l'équipe de France dans laquelle j'ai joué, parce qu'il ne faut pas rêver, quoi. Je veux dire, c'est comme l'équipe de France de maintenant. Je veux dire, cette équipe de France va gagner, mais elle va gagner parce qu'elle a 2-3 joueurs d'exception. Et nous, à l'époque, on avait deux joueurs d'exception qui s'appelaient Philippe Sella et Serge Blanco. Autrement, on n'aurait pas fait des grands HLM, on n'aurait pas fait de finale de Coupe du Monde. On aurait été une bonne équipe. Mais donc voilà, donc il ne faut pas se tromper. Mais franchement, j'étais avec Patrice, il a été surpris que je m'en souvienne. Je les ai tout à l'heure, ce qui est très très beau quand tu es jeune. Tu fais pas t'es pas complexé par rapport aux gens contre qui tu joues. Et je suis sûr que Yann, Patrice, Pompon, Job, qui avait déjà été champion de France, mais était ravi de jouer contre Serge. Mais si tu veux, ils étaient pas complexés, quoi. Tu vois, il y a pas eu ce genre de complexe. Et ça, je pense que c'est le fait qu'ils étaient très très jeunes. Oui, moi, je suis un grand ami de Serge Blanco, mais tu sais, à un moment donné, quand le bouclier de Brennus est en jeu, t'as plus d'amis. Hein. Sauf ceux qui portent le même maillot que toi. Hein. T'as plus d'amis dans les règles du rugby, quoi.
Et quand tu le soulèves, justement, ce bouclier dans les tribunes de Mayol, qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce que t'as le sentiment de... Pas d'usurpation, ça, le terme serait fort, mais...
Le moment qui a été le plus fort pour moi, après cette finale... C'est pas le moment où Pierrot vient me chercher pour qu'on aille chercher le bouclier ensemble. C'est réellement la présentation du bouclier à la mairie de Toulon. Ouais. Ouais, ça a été quand même pour moi. Il faut tout remettre dans le contexte, quoi. Je veux dire, les gens, même malheureusement à 60 ans, vont penser que je suis un peu jobard, mais pourquoi pas. Moi, le rugby, Toulon, si tu veux, j'ai grandi dedans. Donc si tu veux, avec un idéal, quand j'étais petit, j'ai pas honte de le dire, je rêvais, Je rêvais de jouer à Toulon et d'être champion de France et de gagner des coupes. Et je disais tout le temps, j'habitais à La Valette, je regardais le Coudon. Et je disais, ouais, mais si ma grand-mère un jour, parce que j'avais un vrai gros lien avec mes grands-parents qui étaient revendeurs sur le cours Lafayette, et s'ils sont dans la difficulté, je vendrais mes coupes et moi je leur donnerais les sous. Parce que non, mais ça va chercher loin. Donc le moment de revenir dans cette ville avec le jeu.
Noir de monde.
Ouais. Et là, les joueurs qui ont joué, qui sont les vrais champions de France, les uns derrière les autres, présentés au public, ça montait tout à un moment donné. Bon, moi, je veux dire, j'ai pas joué. Et jamais on présente le bouclier. Et là, encore une fois, ils viennent me chercher. Là, c'était un vrai moment très dur. Très dur.
Tu as l'émotion qui remonte.
Oui, mais il y a de très belles images là-dessus. D'ailleurs, je serais friand de les retrouver. Pour moi, pas pour montrer à mes enfants. Enfin, tu le vois, tu es chez moi, là, j'ai rien du rugby, j'ai pas de photos.
T'en parles pas à tes enfants?
Bah, moi, j'ai eu des filles.
Ouais, mais quand même.
J'ai vécu quelques drames. Quelques drames, parce qu'une fois on va en Australie, une de mes filles faisait ses études en Australie, donc bien sûr, comme ça a duré 6 mois, la maman dit on ne peut pas rester 6 mois sans voir notre fille, donc on prend notre deuxième fille, on part en Australie. Et alors je dis, putain, vous voulez pas que je vous montre le stade où j'ai fait mon dernier match, puisque j'ai fait mon dernier match avec les Barbarians en Australie, le Sankage, comme c'est pas possible. Ils sont partis faire du shopping. Donc moi je suis parti comme un con, moi ce stade, donc, c'était nul d'ailleurs, mais bon. Donc, non. Non, mais bon. Alors là, j'ai un petit-fils qui s'appelle comme mon père. Mais oui, ce matin, sa mère, là, parce qu'il joue au rugby, et sa mère l'a mené parce que mon frère lui a offert une tenue de Toulon. Donc il allait dans son club parisien. Parce que c'est quand même une catastrophe pour moi.
T'as un petit-fils parisien ?
Ouais, il est né à Paris et il joue à Paris. C'est difficile. Hein.
Tu l'acceptes ?
Difficilement.
On parlait d'héritage tout à l'heure, justement. Ouais. Tu vas y transmettre les valeurs tout
ouais,
de même.
Ouais, je pense qu'on va se débrouiller. Mon frère est à la mairie de La Valette. Je pense qu'il va y faire une fausse carte d'identité, né à La Valette. Et je vais me débrouiller. Je vais voir. Moi aussi, je suis vice-président de La Valette, donc je vais y faire une fausse licence. Bon, si on m'emprisonne, tant pis. Mais on est dans le sud, hein.
On parlait d'héritage tout à l'heure pour la jeune génération. Ouais. Et finalement, ce titre de 92, il reste le dernier de Toulon pendant plus de 20 ans. Aussi.
Quel dommage.
Ouais, mais c'est peut-être aussi qu'il a marqué ouais. Toute une génération.
Ouais, ouais. Oui, non, mais il marque, moi j'en reviens pas. Les gens sont d'une gentillesse absolue.
Aujourd'hui encore, on te parle de 92.
Oui.
Plus de 87 ou plus de 92
Alors, les gens me parlent du bouclier. Donc, il y a incontestablement 87, parce que c'était une grande victoire pour Toulon aussi.
Ah oui.
Je crois que la seule fois où on avait été champion, c'était en 31, si je ne me trompe pas, contre le Loup. Tu vois que je connais un peu mon histoire. Il faut que je te raconte une histoire sur le même bonus, tiens. C'est peut-être... 87, on l'avait annoncé. Moi, j'étais très inquiet. Il y avait des panneaux. On s'entraînait à Toulon. Moi, j'habitais chez mes parents, à La Valette. Donc, on traversait la ville... Cette année, c'est le titre. Renseigne-toi, mais il y avait eu des panneaux. Donc 87, c'était une grosse machine.
C'est une armada.
Ouais. C'est une grosse machine. Je veux dire, donc c'est attendu. 92, c'était, comme tu l'as dit, la fin d'une génération dorée qui a apporté beaucoup à Toulon.
Et sans Daniel.
Et sans Daniel, c'était quelques joueurs qui devaient passer les armes à quelques jeunes. Donc voilà, donc ça s'est construit au fur et à mesure. Ce que j'ai trouvé formidable, c'est que il n'y a jamais eu réellement le feu.
Même quand il était question que vous puissiez descendre ce match, ce fameux match.
Non, il n'y a jamais eu réellement le feu parce que c'était André et que André il connaît mieux que nous tous le rugby et que si on a fait tout ça. C'est quand même aussi en grande partie grâce à lui. Hein. Je ne parle pas que de 92. Hein.
Ouais.
André Hérault, c'est notre héritage à Barly. Hein. Franchement, hein, moi, c'est comme ça que je le ressens.
Le gardien du temple.
Ouais. Il y avait Jean-Claude Balator qui avait fait cette carrière de joueur, cette grande carrière d'entraîneur aussi à Nice. Voilà, quoi. Il manquait toujours quelque chose, mais bon, voilà, après... ça serait prétentieux de te dire que maintenant, que même après le match d'Aurillac, on savait, mais décomplexé.
On reste quand même à Toulon.
Ouais.
Et la pression populaire à l'époque, elle était comment ? les gens dans la rue, les gens au stade, comment tu, qu'est-ce qu'ils vous disaient, comment vous le viviez?
Je pense que c'est à la fois, c'est à la fois formidable, parce que c'est très latin. Tu es d'accord, je veux dire, il y a plein d'autres endroits. Moi, je travaillais la semaine dernière avec des gens qui étaient de Clermont-Ferrand. Non, mais ils appréhendent les choses et le rugby différemment de nous. Le fait d'être latin comme on l'est, il y a cette proximité avec les gens. Alors, qui est formidable quand ça gagne, qui est quand même très dur. Les gens sont quand même très durs quand ça gagne pas.
C'est pour ça que je te pose cette question.
C'est quand même très dur. Moi, là, si je dois avoir la plus belle action, moi, que je fais sur cette saison, si on la compare à une action de rugby, c'est que j'ai réussi à non pas protéger l'équipe, je ne me prends pas pour un sauveur ou pour Zorro, mais on a réussi, c'est plutôt en proposant des choses à Jean-Claude et à André, justement pour s'extraire un peu de cette pression. Et quand je t'expliquais tout à l'heure qu'on allait à un moment donné, on était capable de quitter l'enceinte du stade pour partir dans les collines, s'entraîner très sérieusement, ensuite faire, si tu veux, un déjeuner ensemble. Et donc, si tu veux, on a recherché cette symbiose de façon différente et peut-être un peu éloignée de ce qui est le cœur de Toulon. C'est sûr que quand tu perds, tu joues la descente, tu vas faire le cours Lafayette. Je veux dire, la pression, elle est difficile, quoi. Tu vois, je ne suis pas certain que tu rentres avec 100% de tes moyens. Voilà. Et puis, encore une fois, je suis foncièrement persuadé, je ne crois qu'au talent. Et cette équipe avait beaucoup de talent. Et encore une fois, ces jeunes, tu sais, quand tu es jeune, la pression...
Ouais, parce qu'ils sont au début, finalement, de l'histoire.
Ouais.
Donc, si vous, est-ce que c'était pas vous qui l'aviez plus, les anciens?
Oui, quand même. Bah oui. Moi, je te dis, franchement, c'est mon plus mauvais souvenir, c'est quand je rentre sur le terrain pour jouer contre Aurillac. Je me souviens du vestiaire, je me souviens de tout. Ce petit stade pourri, c'est... Non, mais...
Tu te vois, est-ce qu'il y a un quart de seconde, je vois André... tu te vois te perdre? Est-ce que tu le vois, tu te dis, si on perd?
Non, parce qu'après, quand tu es sur le terrain, à un moment donné, il faut trouver des solutions pour ne pas perdre. Hein.
C'est ça. Non, mais avant, avant.
Ah oui, avant, oui, avant, oui. Avant, je me souviens très bien de l'échauffement. Mais franchement, je m'en souviens. Il y a plein de choses dont je ne me souviens pas, parce que c'est il y a très longtemps. Mais là, c'est des choses qui m'ont marqué. Je me souviens de ma place dans le vestiaire. Je me souviens être en face André et Jean-Claude, qui ont quand même l'œil qui brille. Parce que ils sont les hommes qu'ils ont été et qu'ils ont apporté beaucoup à ce sport. Mais je sais qu'on partage la même angoisse. Et heureusement qu'elle n'est pas portée par tous.
Oui, c'est vous qui l'assumez finalement.
Exactement. Mais c'est peut-être le meilleur rôle qu'on ait eu à ce moment-là. Après, ça, les choses sont libérées. Je pense que réellement, quand on gagne ce match, je pense que les choses se libèrent réellement. Après le match de Nîmes, où on prend les premiers, on leur colle une branlée, mais de chez branlée en tout, hein, mêlée, dans les regroupements, dans les... Mais on les secoue vraiment. Et là, où nous, on commence à comprendre que pourquoi pas. Et si tu veux, les jeunes s'expriment pleinement, quoi. Après, il y a ce match fabuleux de contre Tarbes, extraordinaire.
Avec ce drop à la fin.
Ouais. Ouais. Mais c'est ça le rugby, hein.
Justement, vous arrivez en finale un peu en position d'outsider. Je suis, comme tu disais, on est un peu jeune, nous, pour se souvenir, mais est-ce qu'à l'époque, on annonce le titre déjà à Biarritz?
Oui, voilà, c'est pire que ça. C'est pire que ça, on n'est même pas outsider. Il faut que ce soit Biarritz qui gagne.
Pour la derrière de Serge?
Oui. On parle du Pelé du rugby. Dans son stade, le Parc des Princes, c'est son stade. Moi j'ai joué 10 ans avec lui, vous le savez. Il a fait des choses que pour l'instant j'ai pas encore vu beaucoup de joueurs de rugby faire. Je crois que c'est cette même année-là, Serge qui n'a rarement buté, je crois que c'est contre les Gallois, à la fin du tournoi, on marque un essai, il prend le ballon, il tape des 55 mètres, il transforme le truc. Donc Donc la France entière du rugby, et ça peut se comprendre. Je ne dis pas que c'est normal. Attends Serge Blanco.
Qui lève le bouclier.
Il a tout eu. Il a tout eu. Il nous a fait faire il nous a fait gagner 5 tournois d'affilée. Il nous a fait faire un grand chelem, même si c'est moi qui m'embroche 2 fois en Irlande. Il nous a emmené en finale de Coupe du Monde, parce qu'il nous a emmené en finale de Coupe du Monde. Et là, c'est son dernier match, c'est la finale. Il n'y a qu'un truc qu'il n'a pas eu, c'est le bouclier. Donc la France entière du rugby, c'est le rugby et c'est le sport.
Et on revient au Toulonnais seul contre tous. Quoi.
Ouais. Mais ça nous plaît beaucoup quand même, vous le savez. Vous le savez que quand même, on est les insulaires du rugby français.
Est-ce que ça a été un levier de motivation, ça, aussi? De se dire, tout le monde veut que ce soit Biarritz, alors les emmerdés, ça va être nous.
Alors, tu sais, quand tu joues une finale, t'as plein d'autres axes de motivation que celui-là, c'est d'abord de les gagner.
Bien sûr.
Ça, c'est le premier truc. Je ne suis pas foncièrement persuadé que si tu veux, que l'équipe se soit... Bon, j'étais, bien sûr, avec l'équipe, se soit motivé par rapport à Serge Blanco, parce que, je veux dire...
Non, par rapport au rugby en général, ouais,
ouais,
à la presse,
tout à fait,
tout ça.
Non, c'est pas... Non, mais là, il faut vraiment que tu parles avec lui, qu'il te raconte des histoires. Il y a Jean-Claude Balator qui a fait... C'est pas un travail, mais qui a fait son rôle, c'est-à-dire qui est allé voir à la fois les instances... Et l'arbitre qui leur a dit, attendez, c'est le meilleur qui gagne ce soir.
Oui.
Et à Serge Blanco, c'est le plus grand, c'est tout ce que vous voulez, d'accord, mais ne nous faites pas marron, quoi. Et Jean-Claude, je veux dire, il a pris son courage à deux mains. Il est allé voir l'arbitre de façon très élégante. Hein. Il dit, attendez les gars, ce soir c'est le meilleur qui gagne. Quoi. Parce qu'on le sait, ça va vite hein, sur une finale. Hein,
Je veux dire, 2-3 pénalités mal sifflées.
Quand tu as une vox comme ça, tu vois, populaire, générale, la presse et tout. Voilà. Mais j'avais pas ressenti après, par exemple, sur les médias. Et par contre, après, très clairement, quand on a gagné, tout le monde a été unanime. Unanime.
Le meilleur avait gagné.
Oui. Oui, réellement. Réellement. Réellement.
Je te pose une question impossible à répondre.
Ah.
Si tu dois choisir, 87 ou 92?
Je peux pas te répondre. Je vais te donner le contexte. Ça, c'est comme les gens qui me disent... c'était encore il n'y a pas longtemps. J'étais en bagnole, là... avec quelqu'un, je ne me souviens plus qui, ça m'arrive souvent. Les gens me disent, alors, pour toi, c'est quoi le plus grand moment? Alors, je peux te répondre d'une façon peut-être bête, mais quand bien même. Moi, le meilleur moment, c'est d'avoir joué au rugby. Tu ne peux pas comparer une finale comme en 87, où ça fait 50 ans que ton club, ou 55 ans, il n'a pas été champion de France, qu'un pays entier l'attend. J'aime pas bien comparer les choses. Je suis désolé, hein, mais... Et puis en plus, d'un côté tu es joueur, de l'autre tu ne l'es pas. J'aurais pas été champion de France 87, je l'aurais sûrement très amer. Parce qu'être champion de France sur le terrain, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Voilà, alors moi comme je fais partie des gâtés parmi les gâtés... j'avais déjà joué des finales, j'avais été déjà champion de France et donc c'est un autre grand moment.
Je te la pose différemment,
mais par contre je voulais te dire, par contre à un moment donné on se pose plus de questions en finale en 87 durant le déroulé du match que ce qu'on s'impose en 92 sur qui va gagner la finale, hein.
Ouais.
Parce qu'à la fin, je ne sais pas si tu te souviens, 87, waouh, on est au bout du bout, c'est-à-dire on est usé, quoi. Je veux dire, on s'est fait des saisons, on a joué, on a gagné, ainsi de suite. Eux sont forts. Mais j'ai le sentiment, par contre, à un moment donné, de dire, tiens, c'est fait. Je l'ai eu plus rapidement contre Biarritz que contre le Racing.
Et alors, différemment, est-ce que 92 aurait existé sans 87?
Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Ce que vous allez chercher dans cette saison, c'est lié aussi à 87?
Mais tout est lié. Tout est lié. Et ça n'aurait pas existé. Si tu veux un club, ce qui est formidable, c'est que c'est à un moment donné, c'est des cultures de club, c'est voilà, on gagne parce que ce qui s'est passé avant existe aussi, à la fois les erreurs, à la fois ce qui a marché ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas 85, 87, peut-être Patrice Tesser continue à jouer au football. Non mais tu comprends ce que je veux te dire. S'il n'y a pas 87, peut-être Michel Perrier reste numéro 8 à la Valette. Il y a des périodes phares. Les dernières années qu'on a passées là, avec les titres de champion d'Europe et tout, ont impulsé incontestablement, un certain nombre de choses dans nos écoles de rugby, dans nos équipes de jeunes. Ce qui est dommage, c'est que aujourd'hui, malheureusement, on a un peu du mal à récolter les fruits. Mais non, les périodes où tu gagnes, c'est toujours favorable à préparer le succès de l'avenir. Toujours. Parce que d'abord, tu sais comment il faut apprendre les matchs, tu sais comment il faut t'entraîner, tu sais où sont les vraies difficultés. Donc tout est très lié.
Et puis l'envie de gagner aussi.
L'envie de gagner. Qu'est-ce que c'est qui fait aujourd'hui la différence, malheureusement, entre l'équipe de France que nous avons, et cette génération, et la génération de, je sais pas, 10 ans, 15 ans, qui était quand même dans la difficulté? C'est que tous ces jeunes-là, ils ont été champions du monde et ainsi de suite, ils savent gagner. Ils ont bien sûr un talent immense. Si on avait eu les Dupont déjà il y a 6 ou 7 ans ou 10 ans, si on avait eu un certain nombre de joueurs, parce que ce n'est pas qu'un seul joueur, mais un collectif, mais en plus, ils savent gagner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, bon, on joue les blacks, on sait gagner. Tu vois? Et si ça, c'est vrai à Toulon, ça n'intéresse pas les gens, je ne sais pas si ça t'intéresse dans ton interview, mais moi, la période où j'ai passé aussi les 7 ans en équipe de France, c'est qu'au fur et à mesure, c'est une équipe qui savait gagner.
Qui n'a pas les jambes qui tremblent au mauvais moment.
Exactement. Exactement.
Comme vous sur cette saison, vous n'avez pas eu les jambes qui tremblent au mauvais moment.
Non, tout à fait. Non.
Bon, mais merci Eric pour cette interview.
Merci à vous.
Et on se revoit pour les 40 ans alors.
J'espère, et puis tous les 10 ans comme ça, parce que nous on commence à rentrer dans l'âge. Non, je m'excuse Fabrice, il y a un truc qui me tient beaucoup à cœur, puisque tu m'as posé une question en premier, je t'ai répondu concernant l'un d'entre nous. Le club, même si on n'est pas tendre avec lui, c'est pas une question de tendre, c'est que ne comptez pas sur moi pour ne pas dire ce que je pense.
Ça, je crois qu'on le sait.
Voilà, je ferai jamais du politiquement correct. On est tous à fond et totalement à la fois derrière le club, derrière les joueurs et derrière son président et le staff, sauf qu'à un moment donné il faut gagner, on l'a déjà dit, mais le club aussi depuis quelques temps essaye aussi de se rapprocher de continuer à mettre en avant l'histoire de ce club. Alors il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas qu'on devienne les conseilleurs, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et c'est aux joueurs à gagner leur match. Mais donc là ils ont été formidables, et on a décidé pour les 30 ans de faire une marche qu'on va appeler la RIM Elvila. Tu sais que depuis avant le Covid, pendant 3 ans, on était des générations de joueurs à partir avec le sac à dos. On a fait un morceau du Gervin, on a fait le Marais Sud en Corse. On est parti, on a été reçu par Louis Ouarmarie dans les Pyrénées pour faire des randonnées. Et donc là, on a décidé de partir 4 jours avant le dernier match du RCT, qui sera le 21 mai. On va partir du Haut-Var, sac à dos. On va faire 4 étapes, puisque je crois qu'il y a 80 km à la marche. On va faire 80 km à la marche. Et puis, voilà, le dernier jour, on va remettre le bouclier au capitaine de Toulon. Parce que, comme on l'avait fait en 92, 30 ans après, on espère qu'ils seront qualifiés et qu'ils iront chercher le titre. Voilà. Et puis, ça, on va le dédier à Eric Melville. Donc, on va marcher entre nous. Il n'y aura pas d'invité. Parce qu'on veut. C'est pas un pèlerinage. Hein, on ne se croit pas à Lourdes. Hein, mais voilà, on a envie de repasser des moments ensemble. Et on va l'appeler la RIM Elvila. Voilà. Et peut-être chaque année, on la refera. On va voir.
Ça sera l'occasion de refaire le match aussi. Après, il faut voir qui a les meilleurs souvenirs. Qui en a inventé.
Ouais. Alors là, c'est un truc. Moi, j'ai jamais vu un match que j'ai joué.
C'est vrai, tu regardes pas?
Jamais.
Aucun?
Non.
Et quand tu te vois à la télé?
Alors oui, mais des fois, des brides de trucs, là. Putain. Et il faut pas que quand on balance, ils voient les matchs. Hein. Parce qu'on était plus mauvais qu'eux.
ton petit-fils de Paris, quand même, tu vas lui montrer les matchs.
Ouais, oh, c'est pas avec ça qu'on avance. C'est pas, voilà, il faut qu'ils se construisent eux-mêmes.
On revient à la question de l'héritage aussi, c'est important.
Oui, c'est important. Ouais. Voilà, merci.
Merci Eric.
Merci.
Toulon sur la trace des champions, épisode 1, Eric Champ, le capitaine en costard.
Cette victoire à laquelle personne ne croyait, celle des genoux de l'université de Besagne.
Rugby Club Toulonnais 1992-2022, les 30 ans d'un titre impensable.
J'imagine que ça doit être du délire sous la rade.
Un épisode chaque vendredi pendant 10 semaines. Un podcast de la rédaction des sports de Var Matin, Fabrice Michelier, Pierrick Illy-Cruffinetti, Olivier Buisson avec Sonia Bonin.